asseyez-vous là. Non, mais asseyez-vous, franchement, là. Ça serait bizarre que soyez. Non, rapprochez-vous, enfin.
Oui, oui, oui. Tiens, regarde. Mais c'est fou comme ça, il n'y a pas de problème.
Voilà.
La table.
Voilà, c'est très beau. Voilà.
Ah, regardez.
Ah, c'est des amis quand même. Hein.
En même temps, on aimait bien le son.
Ouais, mais t'en fais pas, il y en aura. Ma fiole est vide. Je vais boire un petit coup d'eau et. Oui, mais le fait est que c'est la première fois que ça m'arrive. En fait, à chaque fois que je démarre une prise de parole, comme on dit, moi je préfère le mot tentative orale. Déjà, je me demande qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là, etc. Mais là, je ne vais pas vous refaire le coup. Là, le fait est que je suis en présence d'amis. Et vous êtes deux personnes que je ne connais pas dans l'assemblée. Et votre présence est très importante. Et c'est très important que vous soyez près de moi, justement. Et ça va beaucoup m'aider. Et, parce que vous ne me connaissez pas. Donc, toutes les histoires que je vais vous raconter, vous ne les connaissez pas. Parce qu'à chaque fois, on a un peu l'impression de faire avec son vieux stock d'histoires. Parce qu'on répète des fois des choses. Julien, je l'ai rencontré il y a 2-3 ans au laboratoire d'Aubervilliers. Et c'était un jeudi, c'était pas un lundi. C'était autour d'un livre de Tim Ingold, Près l'histoire des lignes, que j'ai acheté depuis, que j'ai lu en diagonale. Il y a des livres qu'on lit d'un bout à l'autre, d'autres qu'on lit pas de façon très studieuse. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez anxieux. C'est vrai que c'est la présence des amis, la présence des livres qui m'aident à vivre. C'est pour ça que c'est très important que vous soyez là, mes amis, et des gens que je ne connais pas. Parce que pour moi, ce que je vais faire, ça relève de l'amitié, du partage. Et Julien, donc, j'avais témoigné, puisqu'à mon nez, Tim Ingold fait la distinction entre ligne de transport et ligne de trajet, si je me souviens bien. Il parle des chasseurs. C'est un extrait de ce livre où on parle des chasseurs qui, quand ils vont chasser, tracent des lignes dans la forêt, tuent le gibier, le laissent sur place et ils ne vont le chercher qu'après, avec un traîneau pour recueillir la dépouille du gibier et choisir le chemin le plus court pour le ramener au village. Ça, c'est une ligne de transport. Et une ligne de trajet, c'est quand on va dans la forêt pour chasser et qu'on regarde les indices, les empreintes des animaux et qu'on dérive comme ça. C'est le truc de stalker aussi l'autre jour. Et ce n'est pas un trajet efficace pour aller au plus près. Ça se prête plus à la rêverie et à l'attention à ce qui se passe. Et Julien m'avait donné sa carte à ce moment-là. Et puisque j'avais pris la parole à un moment donné pendant ce groupe de lecture, et j'avais témoigné pour la énième fois de mon expérience dans les Ponts Funèbres. Et puisque j'ai fait les Beaux-Arts de Paris, j'ai travaillé pour en tant qu'assistant pour un artiste connu les années qui ont suivi les Beaux-Arts, puisque la question de gagner ma vie se posait, et que là, c'était une façon de gagner ma vie en faisant le travail de l'autre, en étant au service du désir de l'autre. Et ça m'était sans doute plus facile. J'ai souvent été dans ma vie au service d'eux. Et j'ai rarement été au service de mon propre désir. Et donc, dans mon métier de pompe funèbre, que j'ai appris, la question de ligne de transport et ligne de trajet se posait. Et puisque si on fait ce métier de façon, voilà, on est là, le mot croque-mort, dans l'étymologie, c'est faire disparaître à la vue des vivants le corps du mort. Croquer à la vue des vivants le corps du mort. Et donc, si vous n'avez rien à faire d'autre qu'un transport de papier et un transport de corps, eh bien, ça devient effectivement un transport. Si vous rencontrez la famille qui n'a pas envie de vous connaître, qui pousse la porte d'un pont funèbre le premier après l'hôpital, tombe sur un petit gars qui fait son métier comme il peut, avec ce qu'il est, et que petit à petit, il y a une confiance qui s'instaure, et finalement, il vous confie les obsèques. Finalement, j'avais le sentiment, avec ses familles, de faire un trajet, ensemble. J'étais avec eux. Et la phrase qui revenait souvent à la fin, c'était « c'est comme si vous faisiez partie de la famille ». Et c'est ce qui était l'intérêt de ce travail. Puisque l'agence où je travaillais, effectivement, à partir du moment où j'accueillais une famille qui m'accordait leur confiance, qui me confiait les obsèques, j'étais leur seul interlocuteur et je faisais de mon mieux. Et j'essayais d'entendre des choses qu'ils me confiaient quand on remplissait aussi les papiers. Parce qu'il y a des gens, c'est en remplissant les papiers qu'ils prennent conscience de la mort de leurs proches. D'autres, ça va être à d'autres moments. Et il y a petit à petit une connivence qui est assez magique, en fait. Et c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Et donc, des années après, ça fait 10 ans que j'ai quitté les pompes funèbres, et j'en parle encore. Ce soir, j'ai écrit un texte pour cette occasion, parce que je suis quelqu'un d'anxieux, et du coup, j'ai toujours le sentiment qu'il faut que je travaille avant, parce que je ne me fais pas confiance, et que j'ai l'impression qu'il faut que je passe par l'écrit, parce que quand j'écris, je me sens un peu moins con, j'ai l'impression que je peux corriger ma pensée, et à chaque fois, lors d'une performance, j'abandonne le texte, en fait, parce que je me dis, c'est pas, si je le lis, je pars sur une route toute tracée, je me suis fait baiser en écrivant, donc là, on va essayer de naviguer entre les deux. Je voudrais quand même vous faire part de ce texte, et en même temps, j'aimerais pouvoir être assez libre. Donc là, j'ai décidé du dispositif table, parce que c'est un dispositif qui m'est devenu familier ces dernières années, puisque je travaille chez moi, donc j'ai pas d'atelier, et que chez moi, c'est deux portes, l'une contre l'autre, sur tréteau, avec un ordinateur. Et finalement, quand on a un ordinateur sur une table, il prend toute la place. On a beau avoir tous ces livres et ces machins, c'est quand même un écran vertical devant soi, et on est quand même tenté d'aller voir un peu Facebook, un peu machin, un peu truc, et c'est pas un temps de lecture. Et c'est pas un temps de j'ai pas du tout de méthode, elle s'est construite petit à petit. C'est vrai que depuis les Beaux-Arts, j'ai toujours eu une pratique d'écriture, parce que bizarrement, je ne dessine plus. Et donc la pratique d'écriture s'est substituée à la pratique du dessin. Je m'en veux à moi-même de ne plus dessiner. Mais je me suis dit que peut-être qu'à un moment donné, les livres pourront remplacer, et l'écriture pourra remplacer le dessin, ou la danse, ou le mouvement. Et moi, je suis plutôt un mec, être cul de plomb, dirait Nietzsche, assis à sa table. Et ici, en fait, quand on a choisi cet espace tout à l'heure avec Julien, je suis arrivé à 14h, j'ai eu le temps d'observer ce lieu. C'était bien parce qu'il y avait une ouverture sur l'extérieur. Et en fait, d'ici, je vois la plaque Passage de Jouy. Alors, près de chez moi, j'habite Gare du Nord, Gare de l'Est, il y a Passage du Désir. Et ici, c'est Passage de Jouy. Il faut que je m'arrange avec ça. Et ce que je voudrais, c'est que la parole... Il y a un écrivain qui est là, que j'aime beaucoup, que je cite à chacune de mes prises de parole, de tentatives orales, puisque c'est le nom d'une conférence qu'il a faite en 1947, qui s'appelle Tentative orale. Et je préfère le mot tentative parce que c'est... Ça dit une sorte d'incertitude, et il interroge ce dispositif-là, de quelqu'un qui parle seul à sa table, et des gens qui sont venus pour l'écouter. C'est un drôle de dispositif. Et il dit, pourquoi demande-t-on à un écrivain ou à un artiste de parler, alors qu'on ne demande pas à un orfèvre ou à un chimiste de laboratoire de parler de son métier. Quand on prête cette attention à quelqu'un, pourtant, même lors d'une soirée, et pourquoi un artiste, lors d'une soirée, aurait droit plus à la parole que quelqu'un qui travaille dans l'administration, dans machin, etc. Pourquoi ce droit à la parole? Et là, pour ce soir, comme l'intitulé de la soirée, c'était lundi soir, j'ai démarré sur le mot lundi. Et je vais vous lire un petit peu les premières choses qui me sont venues. Et ensuite, j'ai découpé mon texte à partir de ce mot, lundi, lundi soir, comme Synesthésie a choisi d'accoler au nom Synesthésie le mot « maintenant », j'ai un peu démarré sur « maintenant ». Vous verrez, il y a des « comme si » aussi qui vont débarquer. Alors les « comme si », c'est parce que depuis quelque temps, dans mes lectures quotidiennes, dans mes conversations avec mes amis, J'ai décidé de prélever toutes les phrases qui débutent par comme si. Comme si. Comme si j'étais artiste. Et ça m'intéresse. Voilà, donc vous verrez, à un moment donné, ça va apparaître. Donc je vais faire un drôle d'exercice. Je vais essayer de lire ce texte. Et puis quand je sens que je décroche ou que vous décrochez, je réussirai de revenir à une parole orale, justement pour qu'on sente ce passage de l'écrit à l'oral et de l'oral à l'écrit. J'ai pas la même voix quand je lis que quand je parle. Et pour moi, même par rapport à ce mot performance, avec lequel j'ai un peu de mal, je l'interroge, vous verrez dans le texte. Et si vous voulez m'interrompre, c'est tout à fait bienvenu aussi. Si vous avez envie de dire quelque chose à un moment, j'aimerais qu'il y ait de la place pour ça. Lundi soir, comme un indice, lundi vite, lundi vide. Vider le vide, dit l'un, remplir le vide, dit l'autre. L'un parle, les autres se taisent. Suis-je fait pour parler? À défaut de faire, par manie. Parler, est-ce faire quelque chose? Ne pas faire, ne pas vouloir remplir le vide. Je l'aime et je ne peux pas lui parler. Je l'épie pour ne pas la rencontrer. Quand je me décide à parler, je ne suis jamais à l'abri d'un rendez-vous manqué. En parlant, est-ce que je cherche à plaire, à circonscrire ma sphère? Parler, la seule chose que j'ai apprise aux beaux-arts, c'est ce que je dis sans y croire. Parler, un des beaux-arts, parler avec ses mains, penser avec ses mains, tenir le vide, défaire l'écrit. Déplier un mot, une phrase, comme un bonbon qui poisse à l'intérieur. Parler de choses qui existent, parler de choses qui ne font que poindre. L'homme à jeun parle du rêve comme s'il parlait dans son sommeil. Comme s'il parlait dans son sommeil. Par la parole, tuer le désir. Par la parole, relancer les dés. Avant que le désir ne se dérobe. Parle, si tu veux, de ce qui est terminé, mais au cours du travail, n'en lis aucun passage à autrui. Toute satisfaction que tu te donnes, ainsi, ralentit ton rythme. En suivant ce régime, le désir sans cesse croissant de communiquer finira par devenir un mobile pour achever l'œuvre. Je parle de ça parce qu'aux Beaux-Arts, par exemple, on nous demandait de parler de nos projets, de ce qu'on avait envie de faire. Et le fait d'en parler, parfois, suffisait. Une fois que j'avais parlé d'un projet, j'avais plus envie de le vivre. Et c'est là, et même quand on écrit un texte, effectivement, s'offrir ce petit plaisir intermédiaire de le lire à quelqu'un de proche, eh bien, effectivement, ça nous arrête. Et quand je travaille dans les ponts funèbres, souvent je faisais appel à ce texte aussi de Blanchot. Parler, c'est essentiellement transformer le visible en invisible. C'est entrer dans un espace qui n'est pas divisible, dans une intimité qui existe pourtant hors de soi. Parler, c'est s'établir en ce point où la parole a besoin de l'espace pour retentir et être entendue. L'artiste aujourd'hui donc est sollicité pour prendre la parole en public. Se montrer, partager son expérience, sa façon de cheminer. Certains prennent plaisir à cela, d'autres pas. J'avoue que cela ne me déplaît pas. Depuis quelque temps, j'accepte l'idée de parler en présent de quelques-uns, avec l'espoir qu'à l'usure ou à l'usage, cette parole prenne forme. Forme orale que je cherche à préciser à chacune de mes sorties, avec la peur de tout bousiller. Je pense qu'on peut considérer comme un projet ou un propos assez étrange de demander à un écrivain de parler en public. C'est constant, me direz-vous. Mais enfin, rien n'oblige qu'un écrivain soit le moins du monde fait pour parler. Il ne vient à l'idée de personne d'en proposer autant à un ébéniste, par exemple, ou un orfèvre, ou un chimiste de laboratoire. Comme ses autres artisans, pourtant, l'écrivain peut avoir choisi son métier parce qu'il aime plutôt vivre seul, un peu caché à son établi. Un peu caché à son établi. Parce qu'il y prend peut-être un déplaisir moins certain qu'à toute autre activité, celle de parler par exemple. En tout cas, le fait qu'il soit écrivain, comme d'autres sont orfèvres, n'implique aucunement qu'il soit désigné pour prendre la parole en public. Commencer. Comment ? Commencer par contrer la paresse, la peur de commencer. Commencer par dire lundi. Lundi. C'est lundi. C'est dit. C'est-à-dire. Ce qui reste à dire. Nous sommes lundi, fin de l'après-midi. À quel moment est-ce le soir ? Quand il fait nuit ? À quelle heure ça commence la conférence ? En quoi est-ce une performance ? Conférence, performance. Pourquoi accoler ces deux mots ? Pour rire ? Pour la rime ? Commencez par se poser la question : quel jour je suis ? Qu'est-ce que je suis ? Déjà, entre le jour qu'il est et ce que je suis, ça ne coïncide pas. Pas vraiment. Et dans l'intervalle, qu'est-ce qui se passe ? La nuit, je mens. Dehors, le jeu. Ne nous enlevez pas la nuit, où tout homme retourne chaque soir vivre trop souvent le meilleur de sa vie. À la fin de sa vie, mon grand-père dormait 18 heures par jour. Si je suis encore dimanche, alors que nous sommes lundi, qu'est-ce qui se passe ? C'est aujourd'hui dimanche. Tiens, ma jolie maman, voici des roses blanches. Le dimanche soir, mal au ventre. Le lundi soir, on mange froid les restes du dimanche. Sa plus belle œuvre est l'emploi de son temps, disait Henri-Pierre Rocher de son ami Marcel Duchamp. Il y a le temps du calendrier, de l'autre, le temps intérieur. L'homme cherche son temps intérieur et quand il le trouve, il fait l'expérience de son origine. C'est à ce moment-là qu'il dépasse la frontière vie-mort. L'angoisse du temps extérieur, un jour après l'autre, qui est liée à la même angoisse existentielle, le pourquoi des choses en relation au temps, disparaît. Car il commence alors à faire abstraction de cette réalité extérieure. Elle existe, mais ne l'envahit plus. L'homme et elle deviennent une seule chose, au sens existentiel profond. La réalité devient un support de méditation ou un champ magnétique dans lequel l'artiste s'identifie avec le temps. Alors, il parcourt toute son origine, sans qu'il y ait au début la vie, à la fin, la mort. La vie n'existe que par rapport aux polarités. Là commence la relation entre vie et art. Dans l'art, nous cherchons le vide, d'où nous sommes sortis. Et lorsque nous le découvrons valorisé, nous découvrons notre temps intérieur. C'est Ligia Clark qui écrit ces lignes dans son journal, Journal du Brésil, le 2 avril 1960. Et elle parle de vide plein. Elle dit le temps intérieur, c'est un vide plein. C'est quelque chose que j'avais retenu. Quant à l'œuvre d'art, on dit que ça... Moi, j'ai souvent... La première définition que je donnais de l'œuvre d'art, c'était pour moi un dépôt de temps. C'était pour moi le luxe d'un artiste, c'est de s'accorder du temps pour faire les choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, un artiste, il est aussi soumis au temps du calendrier, au temps extérieur. Et s'il est reconnu, à mon avis, il faut produire. Il faut produire ce qu'on attend de lui. Ce qu'on attend par rapport à ce pourquoi il a été repéré au début. J'ai été assistant d'un artiste, j'en sais quelque chose. Et au début, on était 2-3 assistants. À la fin, on était 12. Et pour produire. Et pour répondre à la demande. J'ai appris quelque chose de ça. Et le lundi, j'ai envie de décrocher du texte, en fait. C'est associé pour moi, effectivement, à Didier Huberman. Donc, Didier Huberman, c'est un type qui maintenant est devenu connu, qui est philosophe, historien de l'art, qui est originaire un peu de ma région. Moi, je suis originaire de Clermont-Ferrand, il est originaire de Saint-Étienne. Et ce type, un jour, est venu faire une conférence aux Beaux-Arts, la dernière année aux Beaux-Arts. sur la dentelière de Vermeer, je me souviens, où il trouvait un peu du dripping dans un certain endroit du tableau. Et à l'époque, moi j'étais assez... Effectivement, au Beaux-Arts, j'ai plutôt eu tendance à me réfugier dans les cours théoriques, parce que j'étais un peu... Je n'avais plus rien à faire. Et donc, il y avait Alain Bonfant, il y avait qui nous faisait un truc sur la ch'timou de l'angoisse, la ch'timou de l'ennui. Je ressortais de là un peu blanc comme un linge, et encore un peu plus inhibé. Et Chevrier, qui était le cours d'un contemporain, mais ce mec avait le chic pour me donner envie d'aller voir dans la direction opposée. Didu Bamman vient faire cette conférence et lui, je sentais qu'il y avait du désir, justement. Qu'il y avait une sorte de jubilation, de quelque chose qui m'a ému, en fait. Qui n'était pas de l'ordre intellectuel. Et donc, j'ai été voir ces séminaires, en fait, sans savoir trop qui c'était. À l'école des hautes études, à l'époque, c'était Boulevard Raspail. Et à l'époque, il nous parlait de Duchamp. Mais du côté du faire et du toucher. Duchamp, on a l'impression que c'est voilà, quelqu'un de... très intellectuel, etc. Non, là, il l'abordait. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé pour passer mon diplôme. J'ai travaillé sur la poussière, j'ai fait mon élevage de poussière, puisque durant les années aux Beaux-Arts, j'ai passé plus de temps dans ma chambre de bonne que dans un atelier aux Beaux-Arts. À ma table, elle était plus petite que celle-ci. Et donc, j'ai décidé pour mon diplôme de transposer l'espace de ma chambre dans l'espace de l'atelier. Et le premier geste que j'ai fait dans l'atelier, c'était faire le tracé de ma chambre. Du plan de ma chambre de 9 mètres carrés à l'échelle 1 sur le sol gris de l'atelier, mais un beau sol d'atelier avec des taches et tout ça. Et j'ai refait le geste de ma grand-mère qui était de laver à la serpillière à la main le sol, mais en respectant le tracé du plan de ma chambre. Donc le plan de ma chambre apparaissait et disparaissait en séchant. Et c'était filmé de la mezzanine. Et j'avais fait le plan renversé, où j'avais fait le tracé à l'envers, où j'avais laissé la poussière à l'intérieur et nettoyé à l'extérieur. C'était comme une sorte de calque. Et dans cette chambre, j'avais fait des dessins de chirurgie gynécologique, j'avais fait des chapeaux en papier, et donc j'ai disposé des reliques, des traces d'objets que j'avais fait dans cette chambre. Et dans cette chambre, tout d'un coup, comme j'avais fait des dessins de chirurgie, il fallait que je retrouve une place. Et dans l'atelier, il y avait un établi. Donc j'ai changé de place, et c'est devenu le bloc opératoire. J'ai montré des diapositives de pâte à modeler d'après lesquelles je dessinais, et puis les photocopies des dessins que j'avais fait pour ce professeur Truc. Et petit à petit, c'est devenu un récit. Je me suis aperçu que finalement, j'ai embarqué le jury par un récit. Il y avait des objets qui étaient là au sol, il y avait tous mes gestes qui s'étaient accumulés pendant une année dans ce lieu, mais ce qui n'était pas forcément visible. Mais moi, j'estimais que tout ce temps que j'avais passé en atelier, je faisais le pari que ça se voyait quand même. Et que les gens, finalement, en franchissant le seuil de l'atelier, ils sentaient que ce lieu était un peu habité, que j'y avais passé du temps. Effectivement, il n'y avait pas un centimètre carré d'atelier que je n'avais pas touché. J'avais rangé les boulots des étudiants, par exemple. Parce que souvent, les gens, quand ils passent leur diplôme, après, il y a une espèce de lâcher. On laisse son boulot. Toi, c'est une espèce de comme ça, il y avait plein de restes de boulot des autres. Et je les ai juste agencés dans l'espace. Je les ai juste fait exister. J'ai fait du vide, en fait. J'ai essayé de faire un vide pour qu'on les voit. Et après, j'ai fait une espèce de récit qui relie mes propres coquilles avec les leurs. Voilà, donc c'était un peu comme ça. C'était déjà de l'ordre de la parole. Et à l'époque, je ne parlais pas de performance, de machin, etc. Et par rapport à la performance, justement, par rapport au séminaire, dernier séminaire que j'ai suivi du Duberman, c'était le 4 juin. C'est pour ça que j'ai accepté la date du 2 juillet, parce que le 4 juin, j'étais dans le séminaire de Duberman. Et j'ai retrouvé tout ce que j'aime de lui. Parce que par rapport à notre époque, où il y a un côté, on sent qu'on est la fin de quelque chose quand même, on sent qu'on est la fin d'une... Il y a plein de signes qui font que c'est difficile de se projeter quelques pas plus loin, c'est difficile de se raccrocher à des trucs. On a tous du mal à employer son temps, à trouver un fil, quoi. Et ce que j'aime chez Didu Bamman, justement, c'est qu'il y a une sorte de vitalité, de vitalisme, de truc de pas se résigner, quoi. D'y croire encore, même si on dit il y a un discours en ce moment un peu de catastrophe, dire on se prépare à la fin, quoi. On sent bien qu'on est à la fin d'un rouleau, en tous les cas. Et donc, lui, essaye de se dire, ben, il faut, c'est ce que j'aime chez Filiou qui est là, c'est de dire qu'il faut agir là où nous sommes. À chacun à son échelle, à sa mesure, avec ses moyens. Et dire que même si on est dans un champ de ruines, un champ de cendres, eh ben, il faut creuser. Il faut creuser là où nous sommes. Quoi. Il faut creuser des terriers, il faut passer par les égouts. Et il faut essayer de... Et dit, ben, sous la cendre, il y a des braises. Donc il faut aussi creuser dans l'épaisseur de temps, dans sa propre histoire, dans son propre langage, dans son propre... Pour cela, on a besoin des autres aussi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le son dans les cours. C'est comme s'il nous donnait du courage pour les mois. Enfin, parce qu'à chaque fois, il y a une coupure pendant l'été, là, pendant 4-5 mois. Ce n'est pas à mettre à penser. Hein. C'est pas, je ne le dis pas du tout comme ça. Mais j'aime l'idée qu'il nous rappelle ça. Qu'il faut, parce que c'est tellement difficile de garder une vitalité, un enthousiasme, un truc pour ses propres histoires. Quoi. Ponge, par exemple, dans son tentative orale, être artiste, c'est une prétention. C'est prétendre à dire voilà, que j'ai quelque chose à dire et je vais mobiliser l'attention de quelques personnes le temps d'une... Comme à ce moment qu'on est en train de passer. À qui je suis pour ne pas mettre ça? Qu'est-ce que j'ai à dire de plus que... Et est-ce que j'ai besoin de tous ces livres, de toutes ces petites citations, tous ces petits trucs là autour de moi pour sentir que j'ai une pensée mienne? Non, moi je me sens très morcelé. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce dispositif. Parce que là, je sens que ça craque, même au moment où je vous parle. Donc je me dis que j'ai plus du tout envie de vous lire ça. Mais il y a une phrase, par exemple, que j'aimais bien, que j'avais lue dans un texte un peu savant d'un psychanalyste, qui avait recueilli des paroles de ses patients. Et à une de ses patientes, tu as dit un jour, quand je dors, je peux entrer dehors. Quand je dors, je peux entrer dehors. Cette phrase, je peux me bercer avec. Quoi. Genre, si j'étais... je pourrais chanter cette chanson. Quoi. J'aimerais la déplier. Quand je dors, je peux entrer dehors. Quand je dors, je peux entrer dehors. C'est vraiment quand je dors. Et c'est pour ça que je me dis... Là, j'ai trouvé après un truc un peu savant là, de Ponge. Qui dit... Non, pas de Ponge. Et je sais plus... Blanchot, je crois. Il dit justement, quand on rêve, on n'est déjà plus celui qui dort. On est plus soi. C'est le pressentiment de l'autre, de celui que l'on pourrait être. Ça laisse des fois une vraie... Vous connaissez tous ça. Enfin, il y a des moments, il y a des rêves qu'on fait le matin ou qui sont prégnants, qui nous accompagnent tout le jour, quoi, qui nous perturbent. On revoit des visages de gens qu'on a aimés, d'histoires d'amour qu'on finit. Et le mec est toujours là, quoi. Ou la personne qu'on a aimée est toujours là, quoi. Et ça vous accompagne, il faut vivre avec. Et que tout le dispositif d'Internet, tous ces trucs-là avec lesquels on doit combiner nos vies, nous restreignent cet espace-là. De la nuit, du rêve, de la puissance de rêver, ça, on a l'impression qu'il faut qu'on s'arrange pour le contraindre, en faire en sorte que ça soit une petite peau de chagrin à la fin. Alors que c'est de ces moments-là, de la nuit, de nos rêves, de nos machins, que c'est notre noyau de résistance, quoi. Et quand je travaillais dans les pompes funèbres, le lundi, c'était le jour que j'appréhendais le plus. Puisque soit j'étais permanent ce samedi, et j'étais seul du coup à l'agence, et je pouvais recevoir des familles qui étaient toutes contentes d'avoir une agence de pompes funèbres ouverte à côté de l'hôpital Cochin. L'agence était à côté de Cochin. Et du coup, j'avais ma famille pour le lundi. On avait déjà démarré le boulot, quoi. On avait déjà fait... j'avais plus qu'à faire les démarches à la mairie, machin. La confiance était là. Mais si j'avais pas été permanence le samedi, eh bien, j'étais comme mes deux autres collègues, le patron et ma collègue. Eh bien, je flippais le lundi parce que ça se bousculait un peu. Il y avait plein de familles qui débarquaient. Parce que souvent, les familles attendent si la personne, leur proche est mort le dimanche, et ben ils attendent le lundi. Et donc là, il y a le stress. Parce que là aussi, c'est un rapport au temps très... Vous avez 6 jours pour préparer les obsèques à Paris et en France. Entre le moment du décès et le moment des obsèques, il y a 6 jours. Et si vous faites une cérémonie civile au crématorium, c'est le crématorium qui décide de la date des obsèques, selon leur disponibilité. Si vous allez voir un curé, c'est le curé qui décide du jour des obsèques. Donc moi, en tant que conseiller funéraire, je dépends de ces gens pour décider de la date. Je dois composer avec eux. Et je ne peux pas négocier. Est-ce que vous avez un créneau horaire jeudi à 10h? Des fois, non. Et donc, le lundi, c'était vraiment un jour pour moi très, très éprouvant. Et donc là, j'ai vu en maniant toutes ces belles références là, que tout d'un coup, il y avait le lundi et ces souvenirs de Ponfunel qui revenaient. Mais fort, quoi. Et je ne pensais pas que c'était aussi intact. Et je vais vous transmettre juste un petit moment. Un porteur dans la salle d'attente de la chambre mortuaire de l'hôpital Cochin lève le nez de l'écran de son portable, me demande doucement « Il a quel âge le corps ?» Entre le jour du décès et celui des obsèques, le corps a un drôle de statut. C'est encore la personne, et ce n'est déjà plus la personne. C'est le corps d'eux, la dépouille, le cadavre. Dans l'habit du maître de cérémonie, je ne touche pas au corps. En revanche, je prends la parole, accomplis des gestes, en présence du corps du mort, en présence des corps des vivants. À la chambre mortuaire, au lieu de culte, au cimetière, au crématorium. Parce qu'en fait, quand vous êtes pont funèbre, vous avez un déroulé de questionnaires très simple. Et donc, à mener la question, il y a plein de ramifications. Donc, cérémonie civile, cérémonie religieuse, c'est machin, truc. D'un coup, vous devez composer avec ce canevas-là. Il m'incombe de scander les différents moments qui précèdent la séparation définitive d'avec le corps. Il me revient d'ouvrir et de clore la cérémonie, de donner la parole à seuls ceux qui le souhaitent. J'apprends à me taire, j'apprends à écouter. Reste à ma place. Ne parle pas au nom d'eux. Ne vis pas par procuration des émotions qui ne me regardent pas. Façon d'éprouver les différents seuils entre monde des vivants et monde des morts, tout autant qu'entre monde des mots et monde des choses. Façon aussi de mesurer l'écart entre le geste et la parole. J'invente un rituel avec les éléments dont je dispose. Tout en restant dehors, j'accède au plus intime. Convoque vivant et mort. La mort, est-ce le plus intime? La plus grande altérité? Le jour des obsèques, c'est comme si je faisais partie de la famille. C'est ce que les familles me disent. Je le reçois. Ne sors pas des clous. Dans cet habit d'ombre, suis à l'abri. Caméléon. Me shoot aux obsèques. Montée d'adrénaline. Je suis là et ne suis pas là. Présence intermittente. Pression maximale la veille des obsèques. Une fois le corps à sa place, inhumé ou incinéré, la pression retombe. Après avoir surmonté une intense trouille, je ressens une vague de chaleur dans le corps. Deviens une caisse de résonance. Il y a foule en moi. Solitude peuplée. Joie et tristesse mêlées. Ainsi ai-je traversé cette succession de sas avant de m'engager à nouveau dans le corridor long de l'art et de me cogner à la ribambelle des contemporains qui m'indiquent la sortie. Comme dans un habit trop grand. Il ne tient qu'à moi de le tailler à ma mesure. L'artiste devient un tailleur d'espace. L'art réclame beaucoup d'espace. Comme si j'étais hanté par quelque chose qui me retient d'agir là où je suis. Les comme si me barrent la route. Comme si j'étais artiste. Il m'était plus facile de me présenter dans l'habit du croque-mort que dans celui d'artiste. Pourquoi? Parce que j'avais alors des choses à raconter. Aujourd'hui encore, je trimballe ces histoires de croque-mort. C'est devenu mon fond. Je puise dans le stock. Reste à résoudre mon équation, à franchir la frontière vie-mort. Comme si j'étais déjà mort. Comme si j'étais regardé par ma propre mort. Par l'écriture, je voudrais bien acquérir cette aptitude à pouvoir mourir content. Comme ça, je serais bien débarrassé. Ultime parole émise par son époux, que m'a confié Madame Marvier au sortir des obsèques de ce dernier. C'est ainsi qu'elle m'a offert son amitié. Nous n'allons pas en rester là, m'a-t-elle dit en me serrant le bras. Psychanalyste, elle recevait encore une douzaine de patients par semaine, alors qu'elle avait été marchande de bonbons et avait atteint le grand âge. Sa vitalité me faisait du bien. Elle regrettait que je n'ai pas persévéré dans les pompes funèbres, n'ai pas ouvert ma propre agence. Vous étiez à votre place. Faisiez bien ce que vous aviez à faire. Ouais, je faisais de mon mieux. Et le bizarre, c'est que je ne me suis jamais senti autant artiste que dans cette vie-là. Depuis l'autre rive, je reviens sans cesse sur cette expérience. Comme si là était ma place. Le rêve d'une rive est une autre rive. Parce que mon agence s'appelle l'autre rive. Tous les jours, je réponds du téléphone en disant « Bonjour l'autre rive. Bonjour l'autre rive. » C'est comme ça que j'en suis venu à la forme performance. Pour retrouver cette intensité de vie dans un temps circonscrit. Vous savez, plus dur, c'était les obsèques où il n'y avait personne. Ça arrive. Les obsèques avec une église pleine, une salle pleine, c'est facile. Il y a des obsèques, il n'y a personne. Un jour, c'était une dame qui était morte dans le 16e, dans, je ne sais plus, un endroit horrible, c'était une longue retraite. Là. Et Diagonesse, ça s'appelait. Ça s'appelle, ouais, Diagonesse. Cette dame, elle avait fait un contrat obsèque 30 ans avant. Et le jour où elle meurt, il n'y a personne. J'appelle le curé, parce qu'elle avait fait un don. Tout était prêt, il y avait le budget pour les obsèques. Et en plus, elle avait fait elle donnait 750 euros ou 1000 euros pour la paroisse, comme un con, à ce compte curé. J'ai dit, je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Et comme par hasard, le curé, il est arrivé en retard. Il n'y avait pas d'orgue, il n'y avait pas de chant. Et j'ai demandé à mes porteurs de venir avec moi dans l'église pour qu'il n'y ait pas personne. Et il y a eu deux petits bénévoles, des petits frères des pauvres qui étaient là. Enfin, et cette personne, il l'avait connue vivante. Et moi, j'avais besoin vraiment d'entendre quelque chose sur cette personne. Elle avait été modiste et elle aimait chanter. Et du coup, on était 5-6 dans l'église. Le curé a fait une messe d'un quart d'heure, expédiée. Et ça m'a profondément marqué. Un autre jour, un été, au mois d'août, il y a un type qui vient me voir. On était en équipe réduite dans l'agence. C'était les vacances. Et son frère était mort. Son frère, il ne l'avait pas vu depuis 30 ans. Il était mort impasse de la gaieté. On a retrouvé son corps 3 semaines après. Et il ne savait pas quoi faire. Et j'ai dit, écoutez, l'urgence, c'est qu'on trouve, qu'on fasse soit la crémation, soit l'inhumation, mais enfin qu'on procède à ce qui urge, c'est de trouver une place à ce corps. Il opte pour la crémation et je l'ai invité en fait à faire une enquête sur la vie de son frère, qu'il n'a pas vu depuis 30 ans. Je dis, peut-être qu'il y a un canal d'adresse, peut-être que vous pouvez appeler les gens qu'il a côtoyés durant sa vie. Et il l'a fait. Oh, à la crémation, on était 3. Et petit à petit, il m'a appelé en disant qu'il avançait dans son enquête. Et tout d'un coup, 2 mois après, je lui ai dit, dans ce cas, on va faire un moment, au moment de l'inhumation de l'urne, on fera une autre cérémonie. On fera un autre moment par rapport aux gens qui vous n'avez pas pu prévenir au moment de la crémation. Et tout d'un coup, il y avait 60 personnes. Une femme, black, qui était là, une fille de 16 ans. Il avait été syndiqué, il y avait tous ses copains syndiqués, les syndicalistes qui étaient là. Et ça m'avait fait, à part que au columbarium du Père Lachaise, il y a des étages en dessous, là, c'est un peu un truc souterrain. Là. Et quand on vous donne une case de columbarium, vous ne choisissez pas l'emplacement. Et donc celle qu'on a eue, là, elle était vraiment bas, pas à la hauteur du regard. Celle qu'on voudrait, c'est celle à la hauteur du regard, mais non, elle était bien bas. Et donc, il faut faire un moment de recueillement au 2e étage, en sous-sol, devant 60 personnes, et faire un truc qui se tienne, quoi, enfin, qui ne soit pas rien, quoi. Et après, il y a donc, j'avais fait un petit mot, et puis après, j'ai invité les gens à parler, les gens ont pris la parole, quelque chose s'est animé, qui était plutôt beau. Et puis après, j'étais là avec un parce qu'en fait, il y a une plaque de calcaire pour, une fois que vous avez déposé l'urne dans la case, on peut mettre 2-3 urnes, il y a une plaque de calcaire qu'on doit mettre dans une coulissée, mais on la prend, on la pique dans une case à côté. Hein. On en prend une qui est à peu près dans les mêmes bonnes proportions. Et après, vous avez un objet très moche, là, un pistolet à silicone pour joint de salle de bain. Et vous devez faire devant 60 personnes qui sont dans votre dos, là, accroupies au sol, un petit geste élégant avec le piston, là, avec le silicone, quoi. Avec une petite coupelle d'eau. Faites le joint. Et une fois, ça m'est arrivé, la plaque du défunt, enfin, qui est sur le cercueil, normalement, c'est en plastique. Vous savez, quand on crémation, c'est en plastique. Mais un jour, elle était en laiton. Donc, je fais mes deux petits trucs de colle sur le machin, et puis la plaque tombe. Elle tombe. Parce qu'elle était trop lourde par rapport au machin. En plastique, ça tient, mais en laiton, non. Et là aussi, il faut garder bonne contenance. Vous voyez, enfin, faut être un peu. Et c'est souvent la famille qui vous met à l'aise en disant ça l'aurait fait rire. Laisse-la donc en bas. Et après, on va avoir des coups. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est vrai que ce soir, par exemple, si je vous évoque ça, c'est vrai que je sens bien que ma tonalité est un peu triste ce soir. Et c'est pas du tout ce que je voulais. Mais c'était, voilà, par rapport à cette situation où pour moi, ici, ce soir, c'était un rendez-vous. C'était un rendez-vous avec moi-même, un rendez-vous avec les gens présents. Et je l'ai nourri, j'ai eu besoin d'écrire tout ça. Et je me sens un peu tout nu, là, ce soir. Je me sens un peu. Et du coup, qu'est-ce qui vient en renfort? C'est ces histoires de croque-mort. Comme s'il y avait ça de solide, quoi. Comme s'il y avait ça. Je n'ai pas pour parler de mes interrogations d'artiste, mon processus d'artiste. C'est pas très intéressant, en fait. Et là, ce qui m'interroge, c'est pourquoi j'en suis là, pourquoi j'ai arrêté, pourquoi. Qu'est-ce que je voudrais déplacer? Voilà, mon espoir, seul espoir que j'ai, c'est que ce que j'ai ressenti pendant cette expérience de pompe funèbre, c'est là où j'ai compris que j'avais besoin des autres, tout simplement. Que je suis capable d'être seul pendant très longtemps, enfin c'est bon, je suis habitué à être seul, mais putain que j'ai besoin des autres. Et que finalement, c'était les familles que je recevais, alors, on dit ce mot famille, ça peut être des amis, hein, ça peut être des gens, c'est pas forcément la famille qui vient, hein. Mais en tous les cas, j'avais besoin de ce contact avec les gens pour me sentir, me redresser en fait, sentir une estime, et puis dire que bon, moi je vais faire ma prestation, je la ferai un peu moins pire qu'à côté. Je la ferai de mon mieux, en donnant un petit plus, mais sans être conscient du petit plus que je donnais. Je n'étais pas là pour me dire qu'est-ce que je fais bien, ce que je fais, quoi. Non, non, c'est juste, je vais essayer d'accompagner au mieux les gens par rapport à leurs demandes. Il y a des gens qui veulent le strict minimum, qui veulent juste que vous fassiez votre prestation, le choix du cercueil, le machin, le truc, transport de papier et de corps. D'autres, les familles les plus difficiles à accompagner, c'est les familles bourgeoises, comme par hasard. Parce qu'elles ont peur du jugement. Donc, moi, souvent, j'arrivais avec des textes que je pensais que ça pouvait être juste par rapport à ce que je ressentais, par rapport à la famille. Mais la famille bourgeoise va me dire non, surtout rien. Surtout rien. Donc, dans ce cas-là, je transporte les papiers, je transporte le corps, et je reste silencieux à côté de la tombe. C'est très dur. Mais ça vous apprend quelque chose. Et sur vous, il faut rester à sa place. Il y a des gens qui n'ont pas envie de t'en donner plus. Comme ce métier, si je l'ai arrêté, il y a plusieurs raisons. Il y avait la répétition. Dire au bout de 300 obsèques, je deviens un professionnel du funéraire. Ça ne m'empêche plus de dormir. Et si je dis tel mot à tel moment, je suis sûr de toucher les gens. Je suis sûr de mon coup. Et je ne peux pas me renouveler sans cesse. Au début, j'avais cet espoir, cette envie de me renouveler sans cesse. D'arriver avec des nouveaux textes, des nouveaux trucs, des nouveaux. Puis à un moment donné, des jours, j'étais un peu naze. La famille, pas plus d'affinité que ça. Donc j'arrivais avec des trucs déjà. J'étais sûr que ça marche. Et là, je me méprisais. Je me disais, nul, quoi. T'as été nul, quoi. Mais, justement, dans l'art, ça a peut-être moins d'importance. Ça passe. Ça peut passer, en tous les cas. On le sent passer, mais on s'en arrange. Là, je me sentais un petit peu responsable et tout ça. Mais souvent, les gens me disaient, ça a été très bien. Moi, j'avais trouvé que j'étais nul, quoi. Mais j'avais trouvé ça très bien, quoi. Les porteurs, la famille, avait l'air contente. Hein. Oui, c'est ce truc. Et donc, mon espoir, c'est de déplacer ça sur le terrain de l'art. Dire, est-ce que je peux dépasser cette attitude sur le terrain de l'art? En sachant que, moi, si j'ai quitté l'art, c'est que les gens qui côtoient le monde de l'art, c'est pas des gens que j'ai envie de rencontrer. Du tout. En fait, c'est finalement ces gens avec lesquels je suis le plus mal à l'aise, en fait. Et parce que je sens déjà une espèce de préjugement ou de truc, où chacun dans son rôle, puis après ton tour est passé, tout ça. Et donc, à un moment donné, je me suis déplacé, puisque à l'époque, quand j'ai quitté l'atelier de Thomas Hirschhorn, je devais avoir 36, 37 ans. J'étais encore recasable pour Pôle emploi. Il y avait encore un espoir. J'étais encore donc bilan compétences. On me l'offre, cette séance. Et je tombe sur Madame Cotenza, 100 kilos devant moi, une belle dame, déesse mère, qui aurait rêvé d'être psychanalyste. Elle s'en est donnée à cœur joie avec moi. Et il y a eu un transfert, un contre-transfert. C'était super chouette. Et c'est là qu'a eu cette intuition par rapport à moi. C'est là où on a besoin des autres. Moi, j'aurais jamais le culot de faire pour enfin, elle, à vous, je vous propose. Après, moi, j'en ai fait toute une histoire, mais c'était aussi parce que c'est une reconversion possible. Il y a toujours du boulot dans les services funéraires. On recherche, hein, il y a un turnover, les gens s'usent dans ce métier, quand ce n'est pas vraiment pour les bonnes raisons. Et c'est une formation en 96 heures. C'est rapide, hein. Après, il faut un an pour apprendre le métier. Mais j'étais encore recasable. J'avais pas 40 ans encore, il y avait encore. Voilà. Et après, j'ai trouvé l'agence où je pouvais le faire comme je l'entendais, en prenant mon temps. C'est-à-dire que j'avais pas de pression derrière moi pour dire tu passes trop de temps avec cette famille. Ça, c'était très important. Parce que toutes les grosses enseignes de pompes funèbres, Service funéraire de Paris, PFG, Roblot, tout ça, vous êtes soit derrière un écran d'ordinateur et vous rentrez les données et vous faites les fax, les machins, les trucs pour commander le cercueil, commander les fleurs, commander les machins, mais vous ne suivez pas la famille. Vous avez un pauvre maître de cérémonie qui découvre la famille deux minutes avant, qui doit se débrouiller des formules apprises. L'agence où je travaillais, effectivement, j'avais la chance de pouvoir accompagner la famille d'un bout à l'autre et je faisais tout. Donc j'étais avec eux pendant 6 jours. C'est ça qui change tout. Et aujourd'hui, vous avez bien remarqué qu'à Pôle emploi, la Poste, machin, se débrouille pour qu'il n'y ait aucun lien affectif entre la personne qui est conseillère financière ou conseillère Pôle emploi ou conseillère machin avec sa clientèle. Surtout, il ne faudrait pas qu'elle prenne plaisir en plus à les accompagner quand même. Donc tout de suite, moi je suis à la Poste par exemple, je m'étais un petit peu habitué à la dame qui me recevait à la Poste et ils se sont arrangés, elle avait les larmes aux yeux pour me le dire, hein, qu'on lui enlevait son portefeuille de clients et on l'a déplacé. Enfin, surtout que voilà. Et ça, c'est une situation que moi, ça me fait pleurer. Enfin, ça me donne vraiment. Et bientôt, on va arriver à des pompes funèbres où vous allez pouvoir faire le devis sur Internet. Et après, ça pourra se passer sans vous. Hein. En Allemagne, il va y avoir du low cost dans les pompes funèbres. On va en Allemagne, on peut, c'est beau par rapport à l'histoire, on peut, si on est près de la frontière polonaise, le cercueil part en Pologne pour une crémation moins chère. Et vous recevez la lune par la poste. C'est super. Voilà, on en est un petit peu là, malheureusement. Et voilà, donc tout ça, ça me désole un peu. Et donc, le fait est que 10 ans après, je suis invité ici, je parle à une table, je dérive complètement, je n'ai pas lu tous les trucs hyper intelligents que j'avais, machin, là. J'avais pris des notes du Berman, de machin. Mais il y a un type que j'aime beaucoup, et l'autre jour, avec Lotus, donc, on se connaît depuis 2 ans, deux ans. Et Lotus m'a... Puisqu'en fait, depuis quelque temps, donc j'ai décidé, voilà, pour dire ça, voilà. Est-ce que je peux déplacer mon attitude, est-ce que je suis avec mes bouts de texte sur un autre terrain que celui d'une galerie ou d'un centre d'art, d'un machin. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas s'approprier la forme promenade et dire que je convie des gens... par affinité, et puis après, il y a des gens qui se greffent à ça, des voisins, des machins, qui ont assisté à mes promenades. Et mes promenades, en fait, je suis parti d'un texte de Foucault qui s'appelle Le corps utopique, les hétérotopies. Les hétérotopies, c'est un mot qui est un peu moche, mais la réalité qu'il recouvre, elle est plutôt belle. Et donc, il parle de ces espaces à la fois ouverts et fermés, où on se sent franchir des seuils, que sont les cimetières, les maisons de retraite, les bordels, les hôpitaux, tous ces endroits qui sont des morceaux de ville dans la ville. Et donc l'an passé, j'ai pu faire une prestation, j'allais dire, au Musée des Moulages de Saint-Louis. Mais la première promenade, elle a eu lieu au Père-Lachaise. La promenade que je ne voulais pas faire, parce que c'était un peu attendu par rapport à mon passé de pont funèbre. Mais c'était Amandine, qui était une amie qui travaillait au générateur, un lieu dédié à la performance à Chantilly, qui avait un appartement qui surplombait par la chaise, magnifique, un appartement magnifique. On serait cru dans un espèce de film de Jean Eustache, là, c'était super beau, un espèce d'appartement 70s, très beau. Elle quittait Paris et elle me dit, François, tu nous fais une promenade au Père-Lachaise. Et en fait, je pouvais pas refuser. Et en fait, j'ai rouvert toutes mes boîtes. J'ai rouvert toutes les boîtes. J'ai une boîte chez moi, une boîte qu'on met dans la cave, vous savez, une boîte en plastique avec plein de documents dedans, où j'ai relu tous les textes que j'avais lus pour préparer, pour entrer dans les pompes funèbres. Je me suis remis dans cet état, en fait. Et je me dis, je vais profiter de cette occasion pour comprendre les raisons qui m'ont fait entrer dans les pompes funèbres, comprendre les raisons qui m'ont fait sortir. Et un peu d'histoire sur le Père-Lachaise, un peu des textes, un peu des éléments de ma vie, essayer de mélanger tout ça. Et ça plutôt, au début, Lotus était là, il y avait une trentaine de personnes, c'était plutôt un moment très amical, et ça m'a fait du bien de pouvoir revenir sur tout ça, et essayer de, comme une sorte de déblaiement, de creuser mon terrier là où je suis. Et puis j'ai remis ça, parce que les gens m'ont dit, c'est marrant ton truc, tu devrais le faire comme un feuilleton, on te prend là où t'en es, etc. Après, il y avait le problème là aussi de la répétition, de dire, je ne vais pas en faire mon business de ce récit. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a plu parce que c'était vraiment quelque chose qui relevait de l'amitié, du partage. Les gens après avaient envie de me parler. Il y avait quelque chose qui était assez beau. Donc ça, j'aimerais le développer. Julien, je lui avais évoqué aussi cette idée de promenade. Alors, je voudrais faire effectivement pas seulement le Père-Lachaise, les hôpitaux de Paris, puisque Saint-Louis, c'est un hôpital historique, avec ce musée des moulages à l'intérieur, avec cette réalité, c'était un lieu d'enfermement au départ pour les maladies contagieuses. Et petit à petit, c'est devenu un hôpital dédié à la dermatologie, et ensuite, maintenant, l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui. Et il y a ce lieu qui est peu connu du musée des moulages. Donc, l'année dernière, j'ai fait des moments parlés comme ça autour de cette table. Donc, au début, pareil, il y avait 2-3 personnes. À la fin, il y en avait beaucoup parce que c'était des journées patrimoine. Hein. Faut pas, voilà, ils ne pensaient pas qu'il y avait un mec qui allait parler à l'entrée. Mais j'essaie juste de rappeler que ce lieu n'était pas un lieu. On n'est pas dans un cabinet de curiosité. C'est un lieu d'enseignement. Et j'ai pensé plutôt à celui qui a fait les moulages et aux gens à qui on a fait les moulages et dont on n'a pas demandé l'avis. Et dont on a moulé les parties intimes, les parties génitales, machin, et à l'époque c'était la syphilis, machin. Donc c'est des choses qui sont très difficiles à regarder. Et on est devant la douleur des autres, donc on fait pas des selfies devant, quoi. Enfin, juste, mais bon, le fait est qu'il y a eu 1500 personnes en 2 jours au musée des moulages pendant ce week-end. Donc ça m'a un peu éprouvé, mais le fait est qu'il y a quelque chose qui est passé quand même par rapport à ce que j'ai voulu transmettre. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de vous lire ce texte d'un type que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Frédéric Berthet. Et Frédéric Berthet, c'est un type des années 70, dont on attendait une œuvre, qui était vraiment le jeune écrivain un peu brillant, un peu dandy, un type assez sympathique. Et il n'a jamais produit l'œuvre qu'on attendait de lui. C'est lui qui a dit « Je ne pense pas à la mort, mais elle pense souvent à moi ». Et ce mec est mort d'un arrêt cardiaque chez lui à 40 ans, comme s'il le savait déjà. Et on est, il a écrit ce texte là, sur lequel je suis retombé en préparant ce moment. Mais maintenant, j'ai tout juste l'âge des deuils. Quelqu'un est mort à l'hôpital et beaucoup d'amis sont concernés. J'ai l'âge des deuils, puisque les gens que je connais m'en parlent, ce qui n'arrivait pas dans ma famille. Cette envie, je t'en prie, dis quelque chose qui fasse que je puisse penser qu'on s'est vraiment dit quelque chose. Avant que l'un de nous ne meure. Le plus terrible, en ce sens, serait de mourir le dernier, celui qui reste, n'est-ce pas ? Et aucun mot d'adieu sur la table de chevet. Les gens tellement insensibles qu'il leur faut un décès pour être un moment sensible. Alors cette phrase, elle me regarde, en fait. Je me suis posé cette question. Est-ce que tu as besoin d'être à cette place ? Moi qui en disais le petit gars sensible, le petit dernier, celui qu'on ménage, quand mon oncle est mort, à quel tonneau, ma famille a décidé pour moi que je ne devais pas aller le voir, le tonton, sur son lit de mort. On a décidé que non, j'étais trop sensible. Donc j'ai eu le sentiment qu'on m'a volé sa mort. Je n'ai pas dit au revoir. Et il n'y a eu personne au départ à Thonon. C'est tous retrouvés au crématorium de Clermont-Ferrand, dans la zone industrielle, paumé, on n'avait rien préparé. Il y avait un pauvre kiln de forêt dans un coin, et en attendant une salle avec des pancartes en plastique, on ne savait pas quoi faire de nous. C'est là où je me suis dit, putain, c'est quand même fou, quoi. Ça ne peut pas être rien à ce point, quoi. Il faut faire quelque chose, quoi. Enfin, il y a un peu, ça m'avait, j'ai dit, mais du coup, sa vie, c'est rien, quoi. Enfin, c'est qu'est-ce que, pas possible, quoi. Et donc, ça a beaucoup compté pour moi dans la motivation pour entrer dans les pompes funèbres. Une autre histoire, c'était une amie à moi très chère, qui s'appelait Florence. Ce premier boulot que j'ai vu d'elle, c'était, elle se prenait en photo à côté d'animaux empaillés au musée d'histoire naturelle. Et avec un mimétisme entre l'animal qu'elle photographiait et elle. Elle mettait tous ses cheveux quand elle était à côté d'un machin. Enfin, c'était assez beau son travail. Et puis c'était une amie d'une amie, elle était au Beaux-Arts, on s'est rencontrés. Et il y a une sorte de... Voilà, je suis PD, mais vous savez, comme tous les PD, on a des espèces d'amitié amoureuse avec des femmes. Parce que tout d'un coup, on se permet beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, on est dans une place privilégiée. Et donc, elle m'en a voulu à un moment donné à cause de ça, mais bon, le fait est qu'on a beaucoup parlé. Et dans sa famille, son père, j'ai appris, était mort dans un glacier quand elle était enfant, tout enfant. Et on n'a jamais retrouvé le corps. Donc, il y avait le fantasme d'un corps intact dans la glace. Un corps sans sépulture et un corps non putréfié, enfin non, qui n'a pas pu se décomposer. Et en fait, elle est morte d'un cancer à l'âge de 41 ans. Sa sœur, la seule qui n'était pas atteinte par la maladie, s'est suicidée un an après. Sa sœur jumelle est morte du sida et son frère à l'hépatite C survit à ça. Là aussi, je me dis, c'est une famille hantée. Et ce que j'ai appris dans ce métier et ma conviction, c'est que c'est très important de savoir où sont nos morts et de savoir d'où l'importance du lieu de sépulture. D'où l'importance que sinon, c'est son propre corps qui devient sépulture. Et donc ça, il faut faire gaffe. C'est d'où le gel de la dépression, d'où ce truc-là. Et que nous, on est devenus tellement pauvres dans nos rituels funéraires, tellement pauvres dans nos... Donc Diane qui est là aussi, on s'est rencontrés autour de ça. Puisque Diane a fait un film sur les porteurs des services funéraires de Paris, et pour montrer cette réalité qu'on cache. Les porteurs, c'est des gens qui font les cérémonies, mais c'est aussi des gens qui sont conviés pour les réquisitions. Donc chaque année, enfin tous les 5-6 ans, il y a un contrat, un marché. Donc c'est soit les PFG, soit les services funéraires, en gros. Si quelqu'un meurt dans l'espace public ou tout seul dans son appartement, tout le monde s'en fout, et bien il y a des gens qui vont récupérer le corps, et qu'on appelle les porteurs, et qui sont payés 10 euros par cadavre, c'est ça le tarif aujourd'hui. Ils voulaient, au moment où Diane a fait ce film, ils voulaient réduire l'équipe de 3 à 2, c'est pas ça, et faire 5 euros par cadavre. Ces mecs sont dans le dépôt qui est à la place des fêtes à Paris, passent la nuit entière dans ce dépôt, dans une petite pièce aveugle, avec 3 matelas, et ils seront appelés pour aller chercher des corps dans tous les états. Ils font ce que personne ne veut faire. C'est vraiment... Mais comme ils peuvent ne pas en parler à leurs proches et par là, et ben même quand ils ne bossent pas, ils retournent au dépôt pour être ensemble. Et c'est ça, là. Donc ça, c'est des choses vraiment moi qui m'anime. Et j'avais vu en Asie, par exemple, je crois que c'est à Shanghai, je ne sais plus dans quelle ville, il y a des gens qui sont là bénévolement, pour accompagner l'âme. Si mort violente, accident de la route, machin, ils ont une petite cellule de vigilance, là, de veille, et ils se rendent directement sur place pour accompagner l'âme. Comme là, j'ai fait un petit séjour court en Géorgie, et en Géorgie, c'est un peuple magnifique, c'est des gens magnifiques. Ils sont pas abîmés, nous, on est abîmés, et ils vivent ensemble encore. Dans une cour, il y a 10 familles qui vivent ensemble, et il y a 3 générations dans la même maison. Tout ça, on retrouve des scènes qu'on a oubliées, des scènes de l'enfance. Moi, j'ai beaucoup pensé à ma grand-mère, machin, au temps de l'enfance, en fait. Et du coup, on se dit, ah, mais pourquoi on... Enfin, on sent ce qu'on a perdu, en fait. Et après, j'ai rencontré une femme le dernier jour qui était très magnifique, là, Irma. Et une amie à elle avait fait un documentaire sur Arte qui s'appelle « Dites à mes amis que je suis mort ». Et elle filme un rituel funéraire en Géorgie. Et la première scène, c'est une maison à la campagne. Et on voit qu'ils enlèvent les fenêtres de leur gond, ils mettent des planches, ils font entrer la voiture du défunt dans la maison, ils couvrent la voiture d'un drap noir avec les photos, les machins, etc. Il y a les pleureuses, les litanies, les machins. On prépare tout le bagage pour le défunt, la brosse à dents, les caleçons propres, les machins, il met au domino, hop, on met un domino, tout ça. Enfin, il y a du boulot, quoi. Après, on prépare le repas, il y a 300 personnes pour le banquet. Il y a les gens qui font la veillée, qui viennent voir le mort, etc. Et encore, le truc le plus beau que j'ai vu, ça je n'avais jamais vu ailleurs, c'est qu'ils vont donc à l'hôpital, si la personne est morte à l'hôpital, avec une bobine de fil, et débobinent le fil du lit de l'hôpital jusqu'à la maison du défunt pour accompagner l'âme. Donc un peuple qui est doué de ça, qui est capable de faire ça, il a des ressources, quoi. Nous, on est bien, bien, bien pauvres par rapport à ça. Et voilà, donc ça m'a beaucoup marqué. J'ai envie de retourner en Géorgie, d'avoir une cahute là-bas, et d'inviter mes amis là-bas, parce qu'il y a quelque chose à, voilà, qu'il faut... Et en Géorgie, il y a la palabre, la parole, la manger ensemble, les toasts, le repas qui n'en finit plus, le vin qui t'accompagne dans la parole, dans le chant, et dans le cimetière, c'est la même chose. Je suis allé voir dernier jour un cimetière à Tbilissi, et bien à Tbilissi, à côté, dans la concession même, il y a une table et des bancs pour manger, boire et chanter. Et verser du vin sur la tombe. Ah ouais, ça me bouleverse. En fait, je me dis, bon, il y a quelque chose qui me touche vraiment. Il faut que je m'arrête, peut-être, bientôt. Je voudrais juste vous lire, c'est un peu là-dessus que j'avais envie de finir, puisque quand on a été voir avec Lotus l'année dernière, on est retourné au Palais Lachaise ensemble pour faire un peu le repérage pour une promenade à laquelle elle m'invite là, le 21 juillet. Et on a parlé d'Isadora Duncan, on a passer du temps pour trouver sa case de Columbarium.
On ne connaît pas grand-chose tous les deux.
Et moi, c'est vrai que il y a un texte un livre que j'ai pas ici, mais de Les Cahiers de Nijinsky. Et Cahiers de Nijinsky, quand je lis ce texte, ça me fait pleurer. Et parce qu'on a envie de le lire à haute voix, et parce que ce type, quand il n'a plus dansé, il a fait des dessins et il a écrit. Et en fait, après la balade avec Lotus l'année dernière, j'ai voulu reprendre les Cahiers de Nijinsky, parce que je voulais voir s'il avait connu Isadora Duncan. Il ne l'aimait pas trop, en fait. Et il en parle, j'ai acheté une biographie naze sur Nijinsky, que j'ai lue une nuit d'insomnie, là. Enfin, je n'ai pas lu ce livre, tellement qu'il est nul, quoi. On a juste envie de revenir au cahier de Nijinsky. Parce que le mec se permet de juger Nijinsky, de dire... c'était un mauvais coucheur, il baisait mal, enfin tu vois, des trucs, mais pas possible quoi. C'est vraiment des trucs. Et moi, ce texte, je le trouve absolument magnifique. Et à un moment donné, dans son texte, il écrit ça. J'écris un peu en vers, mais ma pensée est ailleurs. Je veux décrire mes promenades. Mes promenades étaient à pied. J'aimais me promener seul. Je veux seul, seul. Tu es seul et je suis seul. Nous sommes seuls et vous êtes seuls. Je veux écrire, écrire. Je veux dire, dire. Je veux dire, dire. Je veux écrire, écrire. Pourquoi ne peut-on parler en rime quand on peut parler en rime? Je suis rime, rime, riff. Je veux riffa, narif. Tu es narif et je suis tarif. Nous sommes rif, tu rif, nous rif. Tu es Dieu et je suis lui. Nous sommes nous. Vous êtes il. Je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup. Merci.
Bon, c'est un peu bizarre.
Merci beaucoup.
Ouais, allez-y. Alors ça, c'est Francis Penche. C'est ce livre-là. C'est ce livre-là qui s'appelle Le Grand Recueil, Méthode. C'est un livre pour moi magnifique.
Je le connais pas.
Et il y a à partir des choses. Mais celui-là, en fait, c'est plutôt des entretiens
sur pratique d'écriture, sur tentative orale, sur my creative method.
Oui, c'est après le succès de Parti pris des choses. Et je ne sais pas s'il existe en poche, je ne suis pas sûr. Et ah ouais, il y avait lui aussi que j'ai oublié. Enfin bon, c'est pas grave, parce qu'en fait, je suis tombé sur celui de John Cage, qui s'appelle Une année des lundis. Et où il cite Satie et il dit, si je ne fuis pas, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Et voilà, toutes les choses que j'ai oubliées. Bon, ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai pas fait non plus.
John Cage,
c'est ce livre-là. En fait, c'est
lundi, quoi.
C'est la transcription. Comme c'était un rendez-vous le lundi, je l'avais acheté pour mon neveu, en fait, ce livre, qui est musicien. Et j'en ai offert un autre, en fait. Et celui-là, j'ai gardé pour moi, parce que je me dis, j'avais quelque chose peut-être à apprendre de ce livre. Et, mais je ne suis pas fétichiste par rapport au livre. Et les livres que je préfère, je ne les ai pas plus dans ma bibliothèque, je les donne. Je les offre. Et, mais il y en a quelques-uns quand même qui sont un peu. Mais voilà. Après ça, j'ai oublié aussi. C'est pas grave. Non, mais là, je ne me rends pas compte. Ah oui, il y avait ça aussi. Bah ouais. J'avais choisi effectivement la photo de David Wojnarowicz parce que avec cette fameuse image très connue où il s'est cousu les lèvres, silence égale mort. Là, c'était Bulletin de mon aïeul qui est mort au champ de bataille. Là, normalement, dans les promenades, alors attends, j'en ai pas beaucoup là, mais. Je vous donne celle-ci. Je te donne celle-ci. Pour toi. Et alors, Tiffaine. J'en ai pas beaucoup. Ça, c'est Barnanos. Ouais, c'est une référence un peu moins. Qui la veut, Barnanos? Mais c'est bien, hein, Bananos aussi. Hein, pour, moi j'avais été bouleversé par.
Alors, on bien une masse.
Bananos, moi je la trouve très belle. Hein. C'est le journal Nature et Campagne. Ça, c'est Georges Bataille. Ça, c'est pour l'équipe de synesthésie. Ah oui, il y avait aussi ça par rapport à maintenant. Moi, j'ai pas du tout parlé de maintenant. Mais. Ah ouais, ça je vous la laisse aussi. Transformer la menace de l'avenir en maintenant accompli. Ce miracle télépathique, seul digne d'être souhaité, telle est l'œuvre de la vivante présence d'esprit.
Merci.
Mais n'hésitez pas. Je suis désolé, hein, c'était un peu une tonalité bizarre. Hein, ce soir. C'est un peu.
C'était la tonalité du lundi.
C'était la tonalité du lundi. Mais ce que m'a dit. Rappelez-moi votre prénom.
Kielucha, on a parlé.
Elle dit lundi, c'est un jour creux. Ouais. Donc, on a creux. Voilà.
C'est, et donc, c'est pas improvisé. C'est, tout ça, c'est travaillé. Cette performance. Si,
bah, vous voyez bien, il y a eu un mélange. Il y a eu un mélange. Je vous ai dit un dixième de ce que j'ai écrit. Et puis, mais finalement, le constat, c'est toujours le même, en fait. C'est que je. Les histoires qui remontent, c'est putain d'histoire croque-mort, quoi. Ouais. J'arrive pas à passer à autre chose, quoi. C'est ça qui me donne un peu de. Je sais pas.
Bah, c'est original, en tout cas. Ça
certes, mais je vais pas en faire mon.
Alors, mon gagne-pain à vie.
Non. Bah, soit tu vas au front, c'est comme si j'avais fait la guerre et je racontais mes histoires de guerre, quoi. Ouais. Donc, à un moment donné, soit tu es au front et tu agis et tu t'es. Vous voyez, enfin, il n'y a pas. Soit je vais pas en faire mon stock, mais j'arrive pas à le convertir en fait, j'arrive pas à le transformer complètement. Là j'essaye un petit peu, mais c'est encore l'ordre du récit, de la restitution, de fragments, de machin. Quand je vais au musée Moulages, je suis obligé de m'intéresser à l'arrêté du musée Moulages, à l'arrêté de Jules Barreta, tout ça. Donc ça oui. Mais là, comme je me sentais un peu dans le vide, je me cramponne un peu à ça. Ça m'interroge quand même. Parce que c'est. Voilà, enfin, ça m'interroge. Et je voulais m'interroger de vive voix devant vous avec ça. Parce que.
parce que je voudrais bien passer à autre chose en même temps. C'est ça
donc
qui est marrant.
Votre œuvre d'art, enfin votre chemin artistique, ouais. Ce dont vous ne vouliez pas parler,
ouais.
C'est cette tentative orale sur la mort. Pour l'instant, mais ça pourrait être sur n'importe quoi. Ce qui vous intéresse,
non.
C'est la prise de parole en public.
Oui.
Ça marche toujours, en fait.
Mais en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est en fait, par rapport à la performance, justement, je m'interroge aussi sur comment moi je vis et je perçois la performance. Et je me disais finalement, ce qui me manque, parce que par exemple, quand je faisais une cérémonie, vous voyez, je parlais en présence du corps du mort.
Oui.
Mais quand les gens donnent leur corps à la science, vous faites des cérémonies sans le corps, ce qui change complètement la tonalité. C'est-à-dire une cérémonie sans le corps du défunt, c'est bizarre. Et donc là, dans le texte, en dérivant, je me dis, mais qu'est-ce qui me manque lors d'une performance ? C'est le corps du mort. Je parle en présence du vivant, mais il me manque quelque chose. Il me manque quoi ? Il me manque le corps. Il me manque le corps du mort, quoi. Il est où, le corps du mort ?
Bah,
mais...
C'est nous, potentiellement, pas. Je vais à des vivants, ouais, chacun se sont concernés. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est des
autres. Si. Non, mais moi, je suis très, très... Et donc, aussi, un texte que je ne vous ai pas lu, là, de Pasolini, là, que j'aime beaucoup, que je cite souvent, c'est qu'il dit que c'est la mort qui opère le montage de nos vies. Et je voulais que je vous lise, ce petit texte est super beau. C'est dans l'expérience hérétique. Et en fait, ce texte, il a dit deux choses. Il a dit être immortel et inexprimé, ou s'exprimer et mourir. Ça, je peux le mettre au-dessus de mon lit. Ça me fait... Voilà. Et il a dit ce truc-là que je... Enfin, je ne sais pas, j'essaie de retrouver ça. Robert Filliou, pareil. Robert Filliou, il a fait un montage là, qui s'appelait... L'immortel mort du monde, et il a pris une brique sur laquelle il écrit « Je meurs trop ». Pour moi, l'art et la mort ont toujours eu affaire. Même dans la motivation pour devenir artiste, c'est quand même, pour moi, la première émotion esthétique, c'est les grottes préhistoriques. Puisqu'en fait, dans la grange de mes grands-parents, il y avait un abri sous roche où il y a eu des fouilles qui ont eu lieu dans les 70. C'était un abri d'époque magdalénienne. Et dans cet abri, on a trouvé des silex taillés, des bijoux, des perles, une petite Vénus. Et pour moi, le plus mystérieux quand même, la première émotion esthétique, quand je suis allé aux Aisy, là, dans la grotte de Combarel, je me suis dit, putain, il y a des gens qui ont rampé dans des boyaux pour faire des dessins qui n'étaient pas faits pour être vus. Et qui ont eu cette nécessité-là. Et après, les dessins s'enchevêtraient les uns dans les autres, et tout ça, c'est un couvert de calcite. On se dit, est-ce que c'était des sanctuaires ? Est-ce que c'était lié à un rite ? Est-ce qu'on... Il n'y a eu aucune interprétation. Bataille a écrit là-dessus, plein de gens ont écrit là-dessus. Mais moi, ça me travaille. Il y a quelque chose qui me travaille par rapport à ça. Et dans la motivation, la naissance de l'art et le début des sépultures, c'est très près. À partir du moment où l'homme a pris conscience de la mort de son prochain, il a mis des bijoux, il a mis des pigments, il a fait des choses par rapport. Il y a eu une préparation du corps, il y a eu une attention au corps, on l'accompagne d'objets. Donc je me dis, pour moi, le premier texte que j'ai lu des Duberman, c'était sur le cube de Giacometti. Le cube de Giacometti, c'était au moment de la mort du père de Giacometti. Et c'était une œuvre de deuil, c'était une œuvre de sépulture. C'était une œuvre dans laquelle Giacometti a mis beaucoup de choses. Et pour moi, quand j'ai vu mon diplôme, j'ai vu des sarcophages et des urnes quelques temps après, quand la dame du bilan de compétences me pointe pour funèbre. Donc je veux dire, c'est pour ça que je me dis, je ne vais pas faire un bilan de compétences tous les 10 ans. Là, ça serait très mauvais le bilan de compétences que je pourrais faire. Mais en tous les cas, pour moi, l'art, c'est quand même affaire de croyance, c'est pas affaire de compétences, et qu'à un moment donné, c'est juste trouver sa place dans la cité. Dans la cité, juste trouver sa place. Et donc, comme j'ai compris que je n'y arriverais pas dans le monde de l'art, à l'époque j'étais beaucoup plus courageux qu'aujourd'hui, je me dis, il faut que tu te déplaces, il faut que tu changes de place, il faut que tu changes de... t'agisses incognito là où tu es, sans revendiquer le statut d'artiste, et ta sensibilité, ton machin, ce que tu es, sera perçu. Voilà, c'est juste ça. Parce que ça fait 10 ans là, que je navigue à vue, là, que je ne gagne pas ma vie avec ce que je sais faire, et je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Juste, t'avais trouvé juste la solution là. À part que j'avais du mal dans les pompes funèbres, parce que pour moi, dans les jours de doute, c'était un métier de larbin, c'était un métier de faux cul,
Vous voyez, enfin, il y a un... Est-ce qu'il faut que tu ailles jusque-là pour te sentir vivant ? Qu'est-ce qu'il dit, Frédéric Berthet ? Les gens qui ont besoin d'un deuil pour se sentir sensible. Est-ce que tu as besoin d'aller jusque-là ? Est-ce que tu ne peux pas créer d'autres situations qui te mettent dans un état de sensibilité aussi à l'autre, sans que tu aies besoin d'être en présence du corps d'un mort ? Ou, voilà, enfin, c'est juste ça. Et après, au niveau du sens d'une vie, tu vois, c'est juste qu'est-ce que tu as fait pour les autres. Alors, c'est vrai qu'il y a Baudelaire qui a dit « être utile, rien de plus hideux » que de vouloir se sentir utile, machin. Mais c'est juste, à un moment donné, au niveau de l'investissement, du sens de ce qu'on peut faire, dire... Bon, c'est un artiste qui m'avait posé cette question lors d'une résidence après les Beaux-Arts à Montflanquin, qui m'a dit « à qui s'adresse son travail ?» C'est une question toute simple. « À qui s'adresse son travail ?» Bon, eh ben, à 25 ans, je n'étais pas capable de répondre à cette phrase. « À qui s'adresse mon travail ?»
Mon travail artistique.
Oui.
Alors, pourquoi autant de personnes qui sortent des Beaux-Arts ne dessinent plus une pomme, par exemple, ne dessinent plus, ne peignent plus, sur le rapport à la représentation ou la non-représentation?
C'est pour ça que je dis que j'ai appris qu'à parler aux Beaux-Arts, parce qu'à l'époque, mon époque, en tous les cas, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais le discours primait beaucoup, en fait. Il fallait savoir déjà parler de son travail, avant même de savoir trop ce qu'on allait fabriquer. Donc, moi... J'avais pas de quoi parler parce que j'avais pas de boulot là. Donc j'ai fini par parler de choses très intimes dont les profs se rassasiaient. Ils adoraient que je me mette à nu, que je raconte des histoires PD désœuvrées là. Et ils adoraient. Mais à un moment donné, je pense que j'allais baiser, que j'allais me réunir en train de baiser, raconter, dire ça allait être mon travail quoi. Ou que parce que je baisse pas, alors non, non. Donc à un moment donné, le rapport à la parole, il est modifié. Dès les Beaux-Arts, parce qu'on finit par parler de choses qu'on devrait garder pour soi, et que nos profs ne sont pas nos amis, et que même nos amis, il faut les ménager, il ne faut pas leur raconter tout ce qui nous travaille. Et donc, à un moment donné, et c'est vrai qu'il y avait un truc d'inhibition, mais alors c'est vrai qu'il y a une phrase que Didier Lorrain nous a dit lors d'un séminaire de Eisenstein, dit « créer, c'est faire quelque chose avec ses inhibitions ». Ça, je trouve ça très beau. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui a trop de facilité. Il y a quelque chose... il pourrait tout faire. Je pense que tout d'être artiste, c'est aussi c'est une difficulté de vivre, quand même, un peu. Quand même, un peu, des fois. Enfin, c'est pas... Et donc, on se dit, je vais occuper mon temps, je vais le consacrer... Enfin, c'est une façon d'habiter sa solitude, quand même, aussi. Dire que j'essaie de trouver une raison de me lever tous les matins et de dire que je ne m'ennuie pas trop quand je suis tout seul et de dire que je cherche quelque chose. Je vais chercher quelque chose. C'est vrai que j'ai besoin d'un truc existentiel dans la démarche artistique. J'ai besoin d'un truc... mais tout seul, je m'asphyxie, pour reprendre le terme. Donc je sais que j'ai besoin d'être relié à deux, trois, mais comme ce soir. Je veux dire, votre présence m'aide déjà à préciser ce que j'ai envie de raconter. Mais je sens, c'est juste vous voyez, par exemple, même une soirée comme ça, ce soir, tu vois, on fait un événement Facebook, on met son truc, on n'a pas envie de faire chier les amis, donc on leur envoie pas un mail personnalisé pour venir, tout ça. Il y a mon noyau d'amis qui répond. Facebook, il suffit de dire que tu es intéressé, tu participes, par rapport au réseau social. Tu n'as même pas besoin de te dépasser, tu as dit que tu étais intéressé ou que tu participes. Donc les gens qui font l'acte de se dépasser, d'être présents, consacrés un lundi soir, jour creux, machin, je veux dire, c'est déjà un vrai acte, quoi. Enfin, c'est déjà super, quoi. Et que vous soyez là avec votre soeur, ça me fait super plaisir. Vraiment.
Merci de nous accueillir.
Mais pour moi, cette dimension d'accueil, elle est hyper importante, quoi. Vraiment. Mais c'est juste. La peur, c'est de tourner un peu à vide, quoi. Enfin, de se dire, je vis des trucs trop compliqués.
Non, vous en sortez bien, parce que vu le sujet, on n'aurait pas cru, je ne sais pas ce qu'on pense ma sœur, mais je ne m'attendais vraiment pas à une performance d'oralité, comme ça. Moi, je m'intéresse à la parole en public, ou dans l'intimité, au conte, à l'oralité de manière générale. Mais que l'oral soit au service... De la mort, non seulement ça ne m'étonne pas, parce que les artistes sont un peu spé là-dessus. J'ai même une amie qui a fait les Beaux-Arts, qui a fait son diplôme en mettant en scène la mort de son père. C'est un peu fou dans ma tête, avec les traces de son corps. Il était mort de silicose, je crois, là. Ouais. Cette chose qui attrape les mineurs, qui étaient mineurs. Ouais. Et elle, tout son diplôme tourne autour de, du cœur et de la maladie. Moi, ça ne me viendrait pas l'idée. Autre chose qui m'étonne, chez les Beaux-Ardiens, enfin, chez les apprentis artistes, parce que
candidats artistes,
ils ne le deviennent pas. Certes. Ils gardent une sensibilité, mais peu peignent ou sculptent ou dessinent. Par exemple, Charlie Lécouture a fait les Beaux-Arts avec ses amis en province, là d'où je viens. Mais il fait autre chose que de l'art qu'il a appris aux Beaux-Arts. Il vit finalement de la musique. Et je me demande pourquoi ils ne citent pas leurs sources. Parce que vous,
moi, je cite mes sources.
Bah, tant mieux, parce que moi, ce que j'ai cru remarquer en architecture, les gens qui font l'école d'archi ou aux Beaux-Arts, alors ça y va des citations, ce qui ne passerait pas du tout à la fac de lettres, ça passe chez eux.
C'est un usage qu'on a aussi aux Beaux-Arts de citations, de citer, parce qu'en fait, la première chose, dès l'entrée aux Beaux-Arts, on vous demande qu'est-ce que vous lisez. Et les profs, la seule chose qu'ils vous ont à vous indiquer, c'est des livres. Tu devrais lire Maurice Blanchot, l'espace littéraire, tu devrais lire machin, etc. Donc on passe un temps fou à lire. Et moi, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Je ne peux pas dire le matin je lis, l'après-midi je dessine. Je veux dire, je me sens pas. J'ai toujours douté de mes capacités intellectuelles, je ne me sens pas du tout un intellectuel. J'avais dit ça à mon oncle, ça l'avait fait rire. J'avais dit, je ne suis pas vraiment un manuel, je ne suis pas vraiment un intellectuel, donc je suis un artiste. Ça l'avait fait bien marrer. Parce que lui était un peu ricanant par rapport à la prétention artiste. Et donc moi, c'est à force de labeur, parce que je trimballe les mêmes références depuis les Beaux-Arts, mais j'ai mis un temps fou à comprendre un peu Blanchot, Didier Huberman m'a fallu 20 ans de séminaire pour un peu comprendre aussi, je reste fidèle, je suis quelqu'un de fidèle, en amitié, tu vois, Ponge, tout ça, Pichot, ça, c'est toujours assez fidèle. Mais après, pour le transformer, en faire sa propre matière, même là, dans un texte comme j'écris là, je me dis, c'est truffé de citations. Je n'ose pas encore écrire sans me caler entre 10 000 citations un peu plus... voilà. Mais à certaines, je les ai tellement assimilées, je les ai tellement recopiées que c'est devenu un peu... Parce que je crois qu'on est modifié par ses propres lectures, quand même.
Bien sûr.
Je veux dire, à un moment donné, le temps qu'on y accorde, à un moment donné, ces lectures, j'estime que ça me modifie. Et vraiment, voilà.
Oui, c'est une rencontre comme une autre, un peu plus dense. Qu'une
solitaire.
Rencontre de la vie, une rencontre solitaire, mais qu'on découvre à son rythme. En plus, vous citez vos sources, je m'étonne juste des artistes en général. Quoi.
C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a un...
Et tout,
c'est vrai.
Je les trouve un peu légers, les mémoires, par rapport à ce qu'on demande dans une thèse de lettres.
Mais après, il y a la figure de l'artiste chercheur, là, qui sévit en ce moment aussi, où on demande à un artiste d'être chercheur, doctorant, etc. Et je me dis, c'est difficile de demander à un artiste tout ça, quoi. Toi, il y a des êtres exceptionnels qui arrivent à... Mais aujourd'hui, ce double statut de docteur, doctorant, machin... Parce que quand tu as fini les Beaux-Arts, maintenant, pour enseigner dans une école des Beaux-Arts, machin, il faut être doctorant. Oui. Il faut être chercheur. Et donc ça, je me dis... on n'est pas tous faits pour ça. Enfin, et qu'à un moment donné, il y a forcément un truc qui va empiéter sur l'autre.
Il ne faut pas vouloir être prof. Parce que
voilà, déjà.
La question des sources, par exemple, c'est bien de faire science et lecture,
voilà.
Mais c'est malhonnête que de... C'est du plagiat, je trouve. Si, utiliser des textes de gens sans les citer.
Il ne faut pas faire trop de généralité.
Oui,
faut
pas, non, je ne suis pas généralité.
Que les j'ai choses vu, de la manière dont tu les as vécues, je ne partage pas la même expérience que toi.
Non, mais on n'a pas le même âge.
L'histoire des artistes-chercheurs, c'est une injonction politique et c'est... Et que subissent aussi les écoles d'art contre lesquelles elles ont essayé de se battre, mais il se trouve que elles doivent aussi rentrer dans le moule comme tout le monde.
Et pourquoi pas? Et ben c'est dommage.
Et tous les artistes, il y en a qui se sont battus, mais c'est juste qu'après ça.
Mais comme l'exigence du bac, à l'entrée aux Beaux-Arts. Avant, ils n'exigeaient pas le bac, donc ça tirait d'autres profils.
Oui,
il y a un tri social aux Beaux-Arts dès l'entrée.
Oui, c'est vrai, il faut déjà.
Il y a pas beaucoup de fils de prolo.
Ils sont pleins d'ailleurs, parce qu'il y en a qui savent dessiner. Qui sont nuls, qui sont incapables de tenir un discours. Moi, j'en connais. Il fait de l'art naïf, il dessine bien, une bonne contrairement à moi ou d'autres choses. C'est un bon copiste. Mais vous lui demandez son nom de baptême ou n'importe quoi, non, il n'est pas discursif. Il ne sait pas parler de ce qu'il fait.
Une petite incursion peut-être aussi pour nous déplacer ensuite.
Oui, bien sûr.
Tu parlais de citation tout à l'heure. Il y a une personne que tu n'auras pas citée ce soir, ou alors j'ai perdu le fil à un moment donné, mais je crois pas. C'est Judith Butler.
Ouais.
Et
que j'avais
à
la fin.
Du coup, je me trouvais ça bien peut-être de
à la fin.
Finir.
Parce qu'elle parlait des sans deuil.
Ouais.
Et donc ça c'est ce que je me suis dit finalement, bon, je connais pas très bien.
Ça, et puis après on va voir un.
Ouais, j'ai juste lu ce texte qui s'appelle Qu'est-ce qu'une vie bonne ? Et elle dit effectivement, il y a des êtres aujourd'hui dans la société qu'on pourrait appeler les sans deuil, comme si leur vie n'était pas digne d'un deuil. Et vous avez remarqué que par exemple les événements qui sont passés en Tunisie, c'est né d'un deuil d'un jeune homme qui est une mort, voilà. Et donc souvent les manifestations, et elle conclut là-dessus, elle dit à un moment donné, notre société, en fait, il y a le terme, là, vous savez, qui est à la mode de disruption, là. Avec toutes ces prothèses informatiques là, de vie sociale par procuration.
Disruption,
ouais, c'est un mot un peu à la mode en ce moment, que j'ai du mal à utiliser moi-même. Mais que Stigler a un petit peu écrit là-dessus, et à un moment donné, il dit qu'on peut, à un moment donné, dans nos vies, ne pas avoir le sentiment d'exister. D'un coup, le sentiment de ne pas exister, quoi. Et elle parle de ces êtres-là. Par exemple, Michel de Certeau parle de 68, il dit justement, les gens étaient dire, je ne suis pas une chose, j'existe. Et j'existe par la parole. On dit de la 68 aujourd'hui que ça a été un événement de parole. Comme on parle de MeToo, on dit que c'était un événement de parole. Que tout d'un coup, les femmes osent parler dans l'espace public des sévices et des harcèlements qu'elles peuvent subir. Et je dis Butler, c'est vrai que j'avais trouvé, parce qu'à un moment donné, je me suis intéressé un peu à la question des sans-abri, je m'étais intéressé à la question des morts de la rue. Et donc il y a une association qui s'appelle les morts de la rue qui se mobilise pour faire des obsèques à des gens morts dans la rue et qui font des événements une fois par an dans l'espace public. J'étais allé une fois à Place de la Réunion où on lit à haute voix les noms des gens morts dans la rue en France et on fait des gestes assez simples. Il y a deux ans c'était Place des Innocents et Judith Butler, c'est vrai que ça m'a touché qu'elle évoque dans le prolongement de Foucault par rapport à la biopolitique. Et à un moment donné, donc, je vous lis juste ce petit texte. Y a-t-il des genres de vie qu'on considère déjà comme des non-vies, ou comme partiellement en vie, ou comme déjà mortes ou perdues d'avance, avant même toute forme de destruction ou d'abandon? Il va de soi qu'une telle question se pose de manière particulièrement aiguë pour quiconque se perçoit comme une sorte d'être dont on pourrait faire l'économie, une personne qui sait, à un niveau affectif ou corporel, que sa vie n'est pas digne de soins, de protection ou de valeur. Cette personne sait bien que sa disparition ne correspondra à aucun deuil, et elle vit activement au présent l'hypothèse suivante. Personne ne me pleurera après ma mort. S'il apparaît que je n'ai aucune certitude de jouir d'une nourriture ou d'un abri, ou qu'aucun réseau social ni aucune institution ne viendront me secourir si je m'effondre, je commence alors à faire partie des sans-deuil. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura personne pour porter mon deuil, ni que les sans-deuil n'aient aucun moyen pour se pleurer les uns les autres. Cela ne signifie pas davantage qu'il n'existe pas un lieu où je serai pleuré par quelqu'un, ni que ma disparition n'aura aucun effet du tout. Mais il n'en demeure pas moins que ces formes de persistance ou de résistance qui conduisent à pleurer les sans-deuil ont lieu dans une sorte de pénombre de la vie publique et que lorsqu'il arrive qu'elle fasse irruption, c'est à la fois pour contester les modèles à travers lesquels ces vies ne cessent de se voir dévaluer et pour affirmer leur valeur collective. Il est vrai alors que ceux qui mènent des vies sans deuil s'organisent parfois dans des formes d'insurrection publique et c'est pourquoi sans doute il est si difficile dans de nombreux pays de faire la part entre des funérailles et une manifestation politique. Ça très fort et c'est vrai qu'on s'aperçoit que beaucoup, même le fameux film de Eggenstein, le soulèvement politique démarre d'un deuil, d'une mort injuste d'un marin, le cuirassé Potemkin. Et je veux dire, c'est souvent le. Il y a eu un jour, j'avais pensé qu'au Maroc, après les événements de Tunisie, il y a un type qui était broyé, qui est mort broyé dans une machine sur un marché qu'on a poussé dans le machin, et ça aurait pu être un soulèvement. Parce que tout d'un coup, c'était la mort d'un petit gars qui était surexploité dans, sur un marché, etc., mmh. qui a été poussé, hein, qui a été, et ils ont réussi à...
À étouffer la
femme. Machin.
C'est un chat prodigieux.
Mais souvent, c'est vrai que c'est... et que souvent, les... Et j'aimais bien cette dimension, justement, politique. Et pour moi, le seul... J'ai jamais été quelqu'un, pardon, de militant. Même en tant qu'homosexuel, j'ai jamais été militant. Quand j'étais voir sans ma journée, là, machin, là, non, c'est quoi ? Sans ma vêtement, oui, oui, non, je confonds avec Sodome. C'est pas grave. Avec, sans ma vêtement, je me suis dit, c'est fou, parce que je me dis, les réunions d'ACT UP, à l'époque, avaient lieu aux Beaux-Arts, en fait, dans l'amphi des Beaux-Arts. Et je me disais, et donc quand j'ai voir ce film, j'étais un peu emmerdé, parce que je me dis, mais t'étais où ? Qu'est-ce que t'as fou que tu... C'est où quoi, enfin, mais j'étais tellement mal moi-même avec l'homosexualité, avec ma propre histoire, avec mes trucs. À l'époque, on était trois PD aux Beaux-Arts, les profs étaient ultra machos. Il y avait Alberto Sorbelli à l'époque qui revendiquait un peu un mec en mosaïque, et puis moi j'étais hyper discret. Et à l'époque, après je me suis souvenu, je préférais les gens de Aide aux gens d'ACT UP. Je m'en souviens, ça, après je m'en suis souvenu après. Mais je me disais, j'avais pas la maturité politique du tout, ni le. Je sais pas, je me disais, j'étais pas. J'étais pas là-dedans, mais je me suis dit, putain, mais je me suis posé des questions, quoi. Pourquoi ce manque de maturité politique, ce manque de d'investissement ? Et je me dis, le seul geste politique que j'ai eu dans ma vie, finalement, c'était cette position dans les pompes funèbres, tout d'un coup. Voilà, socialement, j'avais fait... Parce qu'en fait, c'est aussi un texte que cite souvent Didier Duberman de Benjamin, sur un texte sur le surréalisme. Et il dit, à un moment donné, un artiste peut concevoir d'interrompre sa carrière artistique pour être efficace, politiquement, et dans un espace contrôlé à 100% par l'image. Et qu'à un moment donné, on peut concevoir, effectivement, et c'est la seule fois où j'ai interrompu l'art, finalement, la carrière artistique, le machin, le truc, c'est à ce moment-là que je me suis senti plus artiste. C'est ça, cette contradiction-là, dire qu'à un moment donné, tu peux agir en tant qu'artiste, sans avoir besoin de revendiquer le statut, sur le terrain qui te plaît, et un terrain où on n'attend pas forcément un artiste. Et voilà. C'est, après, il faut le tenir dans la durée.
Mettre de l'art dans sa vie.
Sa sensibilité, en fait. L'art, c'est juste dire, ta sensibilité, le fait d'avoir eu la chance de faire des études, d'avoir lu des textes, de machin, tu le mets au service de toi, tu le mets au service... tu ne parles pas à tes pairs, en fait. Tu ne parles pas à des gens... avec qui tu partages les mêmes codes. Tu vois, c'est ça, en fait, le truc. C'est se dire... et ça, ce truc d'interrompre sa carrière artistique, je me dis que c'est important. Ça peut être concevable. Tu peux agir autrement et que tu as plusieurs vies dans une vie et que tu peux consacrer un moment de ta vie à autre chose, faire autre chose. C'est ce que Foucault donc, disait aussi dans... Toi, aspirer à une vie autre. Une vie autre. Et pour dire, pour avoir une vie autre, invente-toi ta vie érotique. Aussi. Je veux dire que c'est un... Voilà, enfin, c'est juste s'inventer un espace, un temps, et de côtôyer des gens avec que tu as plaisir de voir tous les jours, en fait. Là, ce qui m'a plu dans les ponts funèbres, c'est que ça se renouvelait tout le temps. C'était une relation ultra intense avec des gens, ça durait 6 jours. Je ne les voyais pas. Je maintenais le lien avec certains, des gens avec qui je suis devenu ami. Mais je veux dire, il y avait un truc de renouvellement, de dire intensité pendant 6 jours, et après, toi, tu renouvelles, en fait. Tu renouvelles...
Merci François.
Je t'en prie.